Fréquence protestante, le Midi Magazine, Michel Gaillard.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Ordre de Malte. Et à une époque où l'on parle beaucoup des ONG, les organisations non gouvernementales, qui sont apparues depuis 40 ans comme un nouvel acteur sur la scène internationale, dans tous les lieux du monde où se produisent des catastrophes naturelles, où il y a des conflits ou des problèmes endémiques, à ce moment, j'ai invité l'Ordre de Malte, que l'on pourrait appeler la plus ancienne ONG du monde. Et pour en parler, je suis avec deux éminents membres de cet ordre, Thierry de Beaumont-Bénac, qui est président de l'Ordre de Malte France. Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Et monsieur Jacques de Dumas, qui est ambassadeur de l'Ordre souverain de Malte, et vous avez été, vous avez occupé plusieurs fonctions. Votre dernier poste d'ambassadeur de l'Ordre de Malte était au Liban.
Était au Liban comme dernier poste, bien entendu, mais je suis pratiquement au Liban depuis déjà très longtemps, et c'est pour ça que j'ai pu être actif dans ce domaine-là, plus particulièrement sur le Liban.
Alors nous allons parler de l'Ordre de Malte et de son histoire fabuleuse, mais aussi tout à fait d'actualité, parce que j'ai été alertée sur ce que faisait l'Ordre de Malte par un colloque qui a eu lieu la semaine dernière à l'UNESCO, qui s'appelait « L'Ordre de Malte et la diplomatie humanitaire », qui était organisé avec le concours de la Marine nationale française, et qui a été 2 jours de débats absolument passionnants sur la manière d'intervenir sur les zones de conflits et de catastrophes, des débats absolument passionnants qui mélangeaient diplomates, militaires et humanitaires, et qui m'a appris énormément de choses. Mais d'abord, je voudrais justement vous poser la question, Thierry de Beaumont-Bénac et Jacques de Dumas. Quand je dis, est-ce que ça vous choque si je dis que l'Ordre de Malte est la plus vieille ONG du monde ?
Je ne sais pas si on peut parler d'ONG, parce que l'Ordre de Malte a un statut assez particulier, qui est celui d'un ordre religieux, mais également d'un État. Donc en tant que tel, l'Ordre souverain de Malte est une organisation gouvernementale et non pas une organisation non gouvernementale. Donc le terme d'ONG n'est pas applicable à l'Ordre souverain de Malte. En revanche, il a une particularité, c'est de pouvoir s'appuyer dans son action sur des associations qui relèvent du droit national des différents pays dans lesquels il est implanté. Ainsi, en France, il y a l'Ordre de Malte France, qui correspond aux activités hospitalières et médico-sociales développées par l'Ordre souverain. Et cette association, régie par la loi de 1901, est-elle une ONG à l'égard de la réglementation française ? Alors, et il y a la même chose dans les principaux pays dans lesquels l'Ordre intervient.
Alors vous-même qui êtes président de l'Ordre de Malte France, vous êtes président de l'association loi de 1901 qui s'occupe des œuvres hospitalières ?
C'est ça, c'est une association qui a été créée par les membres français de l'Ordre souverain de Malte en 1927, reconnue d'utilité publique dès 1928 et qui développe les activités de l'Ordre en France et à partir de la France à travers le monde.
Alors le titre exact de l'Ordre de Malte, tenez-vous bien, c'est Ordre souverain militaire hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte. Alors on comprend qu'on ait raccourci ça en Ordre de Malte, mais ça c'est le titre de l'Ordre souverain.
C'est le titre de l'Ordre souverain, et d'ailleurs, en le disant, on résume en une seule phrase à la fois son histoire et ses particularités. Son histoire, il a été créé à Saint-Jean de Jérusalem, à Jérusalem. Avant même les croisades, il y avait dans les années 1060 un hôpital. Ensuite, l'ordre est allé à Rhodes, dont il est devenu le souverain territorial. Ensuite, à Malte, d'où ses 3 noms d'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte. Et ses caractéristiques, c'est d'être un ordre souverain, certes, mais hospitalier depuis l'origine, et militaire pendant un temps pour défendre les pèlerins qui allaient en Terre Sainte. Mais maintenant, ce n'est plus qu'une référence historique.
Mais on voit quand même dans l'histoire que l'ordre de Malte a été l'un des premiers, bien avant, plusieurs siècles avant la Croix-Rouge, à dire qu'ils allaient soigner les combattants ou les victimes des conflits de quelque religion ou de quelque camp qu'il soit. Et ça, c'est aujourd'hui le principe même de l'action humanitaire.
Oui, c'est tout à fait intéressant que vous mettiez le doigt sur cette caractéristique, parce que dès la charte de constitution de l'ordre, donc au tout début du XIIe siècle, il était déjà dit que les hôpitaux, les dispensaires de l'ordre, accueilleraient toute personne qui viendrait sans qu'on lui demande quelle était sa religion ou sa provenance. C'était quelque chose de particulièrement révolutionnaire pour l'époque. Et nous avons continué dans ce sens-là. Et aujourd'hui, l'ordre intervient dans toutes sortes de pays, dans quelques 120 pays à travers le monde, quel que soit le régime politique ou quel que soit l'environnement religieux qui existe.
Jacques de Dumas, vous qui connaissez bien donc le Liban, vous avez été ambassadeur de l'ordre de Malte au Liban. L'ordre de Malte est resté, d'ailleurs ça c'est aussi le poids de l'histoire, très présent dans ce Moyen-Orient.
Oui et non, c'est-à-dire oui jusqu'à une certaine période, mais il n'a pas pu se maintenir au moment où la présence ottomane a totalement occupé le pays. Et il n'est revenu en Terre Sainte, en parlant également du Liban, de la Palestine, de la Syrie et de l'Irak où nous sommes installés, il n'est revenu que après la dernière guerre. Nous avons repris une activité entière. Je me permets d'ajouter peut-être un mot à ce que vient de dire Thierry de Beaumont-Vénac, c'est à propos du terme hospitalier. C'est, je crois, pour nous le terme qui est le plus important. Nous avons à l'origine été hospitaliers et nous sommes restés toujours hospitaliers. Et nous avons dans ce domaine-là eu également une antériorité qui n'est pas celle d'être peut-être aujourd'hui d'un certain côté la plus ancienne ONG du monde, si on peut dire, mais qui, dans la recherche médicale, dans tout ce qui a trait à la qualité et aux soins des malades, nous avons une antériorité qui est absolument extraordinaire. Nous sommes les premiers à avoir, si l'on peut dire, sorti les malades de la paille pour les mettre dans des lits. Ce qui était très important sur le plan prophylactique en particulier. Nous avons été les premiers à pouvoir, avec l'autorisation de Rome, pratiquer des interventions sur des corps pour pouvoir avancer.
Oui, à l'époque, c'était tabou. Oui.
C'était absolument tabou. Mais nous avons reçu cette autorisation et cela a permis de faire un pas énorme dans la progression de tout ce qui est chirurgie et médecine. Alors, pour revenir à votre question, nous ne sommes maintenant revenus d'une façon efficace que depuis la fin de la dernière guerre. Et je vous en reparlerai.
Oui,
si vous voulez,
êtes donc au Liban, à Bethléem, nous en parlerons, et en Irak, comme vous l'avez dit, en Syrie aussi. Je voudrais revenir sur l'histoire, parce qu'il y a plusieurs points tout à fait fascinants dans l'intitulé de l'ordre, souverain, militaire et religieux. Alors, souverain, c'est un cas unique, je crois, dans le droit international, c'est-à-dire que vous êtes un État sans territoire.
Effectivement. En fait, l'ordre a été constitué dès le départ, exempt de l'autorité religieuse locale, des évêques des différents lieux dans lesquels il avait des possessions, directement attaché à Rome. Et l'ordre a très rapidement pu s'organiser, se gérer, se gouverner seul, sans dépendre pour l'aspect temporel, ni du Saint-Siège, ni des différents souverains des États dans lesquels il était amené à intervenir. Ensuite, ça c'était sa souveraineté fonctionnelle qui existait quasiment depuis le début et qui a continué jusqu'à maintenant. Il se trouve qu'en plus, il a eu une souveraineté territoriale lorsqu'il est devenu le souverain de l'île de Rhodes, lorsqu'il est devenu le souverain de l'île de Malte. Mais même après la perte de l'île de Malte en 1798, il a conservé sa souveraineté de fonctionnement, sa souveraineté d'organisation, et c'est ce qui lui permet de continuer aujourd'hui son activité, avec des représentations diplomatiques, avec aujourd'hui quelques 104 pays à travers le monde. C'est dire que ce sont des pays qui sont d'origine très très diverses.
Et vous avez un observateur à l'ONU.
Un poste d'observateur permanent à l'ONU et dans les différentes organisations des Nations Unies, que ce soit la FAO, l'OMS, l'UNESCO, etc. Cette souveraineté est importante pour nous parce que cela nous permet d'avoir toute une indépendance, toute une liberté d'action pour pouvoir intervenir de la façon la plus efficace possible dans des situations qui sont quelquefois des situations de crise, des situations particulièrement tendues. Et à ce moment-là, ce ne sont pas des Français, des Allemands, des Américains, des Espagnols, que sais-je, qui interviennent, mais des membres de l'ordre souverain de Malte, en dépassant les clivages politiques qui pourraient exister et sans pouvoir être taxés d'arrière-pensée autre que d'action humanitaire.
Alors, né dans la Méditerranée, l'ordre de Malte était d'abord européen autour, mais il est maintenant aux États-Unis et partout. Il y a même des ordres de Malte dans des pays en Amérique latine, indépendamment des actions. Là, je parle de l'ordre lui-même.
Il y a des associations de l'ordre, parce qu'il
n'y
a qu'un seul ordre.
Il n'y
a qu'un seul ordre de Malte, mais qui,
jusqu'à
la Révolution française, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, était organisé en langue qui était exclusivement européenne. Et maintenant, il est réparti à travers le monde avec 47 associations nationales, avec 12 prieurés qui sont en Europe, évidemment, qui est son berceau qui est toujours important, mais également en Amérique du Nord, en Amérique latine, au Proche-Orient, en Asie. La dernière association qui a été créée est une association sénégalaise, par exemple.
Alors, l'ordre a un emblème, la croix de Malte, qui est blanche sur fond rouge, sur le drapeau. Et là, une curiosité qui m'a beaucoup amusée pour les protestants, c'est que la croix huguenote qui avait été créée en France après la révocation de l'édit de Nantes à Nîmes, reprend la croix de Malte, mais fleur-de-lysée. Je crois d'ailleurs que c'était fait pour montrer l'attachement des protestants au roi, pour montrer qu'il s'est resté inséré dans la France. Mais cette croix de Malte, on la retrouve sur la croix huguenote. Mais au passage, après la réforme, l'ordre de Malte dans les pays réformés comme l'Allemagne ou les Pays-Bas et la Suède, l'ordre de Malte est resté. Il ne s'appelle pas ordre de Malte, mais ordre de Saint-Jean de Jérusalem.
C'est cela. Les commanderies qui étaient plutôt vers le nord de l'Europe, pour un grand nombre d'entre elles ont embrassé la religion protestante, ont pris une autonomie à l'égard de l'ordre catholique, à l'égard de l'ordre souverain, et ont constitué un bailliage de Brandebourg autonome, en nommant non pas un grand maître, mais un maître et grand bailli, pour faire la distinction avec l'ordre souverain. Et les relations ont toujours été très étroites entre l'ordre de Saint-Jean et l'ordre de Malte, devenu l'ordre de Malte. Et aujourd'hui encore, cette relation de confiance et de complémentarité d'action à travers le monde, y compris en France avec la commanderie française du grand bailliage de Brandebourg, est toujours très, très, très vivante.
Alors c'est aussi un ordre religieux, mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui dans les associations, tous les gens qui participent, les bénévoles, sont... Alors encore que la devise c'est, si je me souviens bien, pour la foi et pour les pauvres.
Oui, en fait, nous avons deux charismes qui sont mis en exergue. C'est la Twitio Fidei et l'Obsequium Pauperum. Twitio Fidei, c'est la défense de la foi. Et l'Obsequium Pauperum, c'est le service des pauvres, des pauvres et des malades. Ce qui a amené, d'ailleurs, à travers les siècles, et notamment au 15e, 16e siècle, 17e siècle, à avoir des termes génériques qui étaient associés à l'ordre. Quand on parlait de l'hôpital avec un grand H, ça voulait dire l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Quand on parlait de la même façon de la religion avec un grand R, c'était également l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem.
Là, je me suis posé une question en lisant l'histoire de l'ordre de Malte. C'est, est-ce que la France, historiquement, avait fourni, plus que d'autres pays ou à égalité, beaucoup de membres de l'ordre de Malte? On a l'impression quand même que la France a été un pays un peu majeur dans le développement de l'ordre de Malte.
La France a eu un rôle très important, a toujours un rôle important, mais historiquement parlant, la majorité des grands maîtres, des 79 grands maîtres que l'ordre compte, la majorité, alors c'est quelques 36, 38 grands maîtres, étaient français. Les trois premières langues sur les huit que comptait l'ordre étaient des langues françaises. la Provence, l'Auvergne et la France, qui avaient hiérarchiquement les trois premières places. La majorité des membres de l'ordre qui agissaient au XVIIIe siècle étaient également français.
Alors depuis 2008, le grand maître est un Britannique ?
C'est un Britannique, effectivement, qui a succédé à un autre Britannique, mais il a fallu attendre la fin du XXe siècle pour avoir des Britanniques à la tête de l'ordre. Il n'y en avait pas eu parmi les 77 qui les avaient précédés.
Alors nous allons parler maintenant, Jacques de Dumas et Thierry de Beaumont-Bémac, de l'action de l'Ordre de Malte, parce que c'est une action à la fois internationale, mais aussi, on peut le découvrir, très présente dans les pays. En France, par exemple, même, vous avez une action extrêmement importante de lutte contre la précarité, d'aide aux migrants, des formations de secourisme, des institutions pour les personnes handicapées, autistes. Vous vous attaquez aussi à la dépendance et à la maladie d'Alzheimer. C'est une présence extrêmement importante, souvent discrète. D'ailleurs, l'Ordre de Malte ne fait pas beaucoup de tapage. Et puis, nous parlerons après de ce que vous faites aussi alors sur la scène internationale dans les grandes actions humanitaires. Mais je voudrais, vous qui êtes président de l'Ordre de Malte France, parler un peu de ces activités sur l'Hexagone.
Oui, effectivement, nous avons trois missions principales dans les actions menées par l'Ordre en France. Nous intervenons tout d'abord dans le cadre de la solidarité. Et là, nous avons des équipes de secouristes, par exemple, qui existent un peu partout à travers la France pour participer à des opérations lorsqu'il y a des cataclysmes naturels, par exemple, des grandes inondations, des cyclones ou des tempêtes, tout du moins en France. Mais nous intervenons également pour accompagner des manifestations religieuses, sportives, là où il y a des personnes qui peuvent être en situation de difficulté sur un plan de santé. Plan sanitaire. Nous avons d'autres actions qui sont des actions de proximité au profit des personnes qui sont les plus fragiles d'entre nous, à savoir des personnes qui vivent dans la rue, des personnes sans domicile fixe. Nous avons des distributions de petits déjeuners, de soupes chaudes. Nous sommes parmi les fondateurs du SAMU social de Paris, par exemple.
Oui.
Et nous nous sommes rendus compte qu'un certain nombre de personnes vivaient dans la rue en refusant tout abri parce qu'elles risquaient d'être séparées de leur compagnon le plus proche, à savoir leur chien. Et c'est pour cela, par exemple, que nous avons créé une péniche. Nous avons une péniche qui est amarrée sur les rives de la Seine, dans le 15e arrondissement, qui accueille des personnes qui sont à la rue, sans domicile fixe, et qui peuvent venir accompagnées de leur chien.
Oui.
Et ensuite, également, dans ce cas de solidarité, nous prolongeons notre action jusqu'à la réinsertion sociale et professionnelle avec un autre bateau, une autre péniche qui accompagne des personnes pour faire en sorte qu'elles reprennent confiance en elles, qu'elles reprennent une activité professionnelle et qu'elles ne se découragent pas au premier problème qui peut survenir. Donc nous les accompagnons sans pour autant faire de l'assistanat qui serait déresponsabilisant pour elles. Nous intervenons également auprès des migrants, tout cela dans le cadre de la solidarité.
Alors vous avez, je crois, en France 1500 salariés et puis des milliers de bénévoles.
Alors, nous avons beaucoup de bénévoles, c'est une des grandes forces de l'Ordre de Malte que d'accueillir justement des bénévoles qui viennent travailler avec les salariés permanents dans le nocarisme de service des pauvres.
Mais alors comment viennent les bénévoles, comment sont-ils, parce que ils sont de foi chrétienne?
La plupart d'entre eux, oui, effectivement, mais il y a d'autres personnes qui ne sont pas particulièrement attachées à cette foi chrétienne, mais aux grands principes humains, aux grands principes de solidarité qui les amènent quelquefois à découvrir un sens à leur action dont ils n'avaient pas forcément une conscience totale.
Mais d'ailleurs, cette question de foi, Jacques de Dumas, vous qui avez été au Liban, je lisais justement que dans les œuvres de l'Ordre de Malte au Liban, ça, on retrouve d'ailleurs ce principe, c'est que ça s'adresse à tous, indépendamment de la confession, du statut social, du camp dans lequel on se trouve.
Oui, non seulement au Liban, mais également en Palestine, nous pouvons en parler aussi à propos de Bethléem. Mais c'est un des points essentiels pour nous, c'est de pouvoir, dans tous les centres que nous avons créés, ces centres ont été créés, en fait, en grande majorité, pendant la première guerre civile du Liban. Et on les a choisis comme endroit, comme emplacement, dans les endroits qui étaient les plus difficiles à atteindre. Et un des points essentiels pour cela est que nous avons, grâce justement à notre statut, qui est un statut donc diplomatique, nous avons la possibilité de souveraineté, nous avons la possibilité, et nous avons été parmi les seuls à pouvoir, pendant toute cette période de guerre civile, passer d'une zone à l'autre. Nous pouvions, avec notre fanion, sur les voitures diplomatiques par exemple, ou sur nos ambulances, nous pouvions passer, alors que les autres ne pouvaient pas passer. Nous allions donc aussi bien d'un côté que de l'autre. Et ceci s'est perpétué. Nous continuons maintenant, d'abord, à toujours recevoir, dans tous les centres que nous avons, tous ceux qui se présentent, sans aucune discrimination, et nous sommes installés aussi bien d'un côté que de l'autre. Si je peux prendre un exemple qui est assez marquant, mais le Hezbollah, dont on parle quand même beaucoup en ce moment, puisqu'il joue un rôle de plus en plus important sur un plan politique au Liban, pendant toute la période de la guerre, nous pouvions passer sans aucun problème dans toutes les zones contrôlées par le Hezbollah. Et il y a 3 ans, après la fin de la guerre, la dernière, celle-là avec Israël, nous avons l'habitude de donner toujours, pour la Saint-Jean, qui est donc notre fête nationale, une messe solennelle et une réception. Et en tant qu'ambassadeur à ce moment-là à Beyrouth, j'avais décidé de ne pas tenir cette messe à Beyrouth, mais de la tenir dans le sud Liban, dans la partie qui avait été très touchée par Israël. Nous n'avons pas fait d'invitation officielle, parce que je tenais à ce que ce soit au contraire très discret. Malgré le fait qu'il n'y ait pas eu d'invitation, en réalité, le président de la République était représenté par sa femme, le président du Parlement, qui lui est musulman, était représenté par son fils. Et il y avait donc beaucoup de représentations officielles qui étaient, et l'église, qui était une petite église, était pleine, et au premier rang, il y avait 7 membres du Hezbollah qui étaient là. Et les musulmans y assistent à nos fermes de la même façon. Pour la circulation, comme je vous le disais, même encore aujourd'hui, nous sommes parmi les seuls à pouvoir circuler dans la zone du Hezbollah sans avoir aucune contrainte, aucun problème. Mmh. Évidemment, nous avons aussi la protection de la FINUL, avec laquelle nous travaillons beaucoup et qui nous aide, mais c'est un cas un peu particulier. Nous sommes, je crois, les seuls à pouvoir le faire de cette façon-là.
Oui, c'est. Il y a.
Je crois qu'il y a un point que l'ambassadeur de Dima ne mentionne pas, mais qui est assez caractéristique. Il y a un peu plus d'un an maintenant, le grand maître de l'ordre de Malte est allé en visite officielle au Liban à l'invitation du président de la République. Et à cette occasion-là, il y a eu un grand dîner qui a été offert par le président de la République, et le grand maître avait souhaité pouvoir rencontrer les différents responsables religieux des religions présentes sur le sol libanais. Tous les responsables religieux, au plus haut niveau, étaient présents autour d'une même table au palais présidentiel de Babda, en présence du président de la République libanaise et du grand maître de l'ordre. C'est montrer cette capacité à dépasser les clivages religieux, les clivages sociaux qui existent pour l'ordre et qui fait partie des atouts considérables dont il peut user pour sa mission.
On va faire une petite pause musicale et je vous retrouve pour parler alors justement des actions internationales de l'ordre de Malte. Thank you.
Fréquence protestante, le Midi Magazine, Michel Gaillard.
Et nous sommes en compagnie de Jacques de Dumas, ambassadeur de l'ordre souverain de Malte, qui a été en poste au Liban jusqu'à des années très récentes, et Thierry de Beaumont-Bénac, qui est président de l'ordre de Malte France. L'ordre de Malte, nous venons de voir les actions qu'il fait en France, mais il est extrêmement présent sur la scène internationale et dans tous les événements dramatiques qui peuvent se produire, qu'il s'agisse de catastrophes naturelles, comme il y a un an en Haïti, ou qu'il s'agisse de zones de conflit, et hélas, il y en a beaucoup en Europe et dans le monde. Thierry de Beaumont-Bénac, il y a les actions de long terme, l'ordre de Malte est installé sur place, mais il y a les actions d'urgence. Quand un événement se produit, un conflit ou une zone de malnutrition endémique se révèle, ça c'est le rôle d'ailleurs où on voit l'ensemble des ONG souvent se précipiter, l'ordre de Malte est présent sur ces zones.
L'ordre de Malte est présent et cela relève d'une vieille tradition. Dès le XVIIe siècle, il intervenait justement à la suite de tremblements de terre qui avaient pu intervenir en Sicile ou dans le sud de l'Italie. Mais dans les années actuelles, il a créé, pour être plus efficace, un corps international d'action, d'urgence et de réhabilitation qui suit l'urgence, puisqu'on ne peut pas séparer l'un de l'autre. Cette entité qui s'appelle Malteser International est basée à Cologne et il y a à l'heure actuelle 17 associations nationales de l'ordre de Malte qui y participent. Ainsi, il y a un an, nous avions des équipes qui étaient sur le territoire haïtien, à Port-au-Prince, à Léogane, dans tous ces endroits qui avaient été touchés, comme il avait été présent quelques années plus tôt dans le sud-est asiatique à la suite du tsunami. Ça, c'était des catastrophes naturelles, dans un cas comme dans l'autre, Haïti ou le sud-est asiatique. Mais il était présent également dans les Balkans, au moment des conflits qui ont accompagné l'explosion de l'ancienne Yougoslavie, comme il était présent également dans la région des Grands Lacs, au moment des conflits avec le Rwanda.
Alors Jacques de Dumas, vous avez parlé de Bethléem et vous avez été longtemps représentant de l'Ordre de Malte dans cette ville. Qu'est-ce que fait l'Ordre de Malte ?
L'Ordre de Malte fait ce qu'il y a de plus beau qu'on puisse faire, c'est une maternité à Bethléem. Et cette maternité a été créée il y a 20 ans maintenant avec les filles de la charité qui avaient elles-mêmes un hôpital général à Bethléem qui a connu de grandes difficultés au moment des guerres locales, avec Israël en particulier, au moment où c'est passé d'un côté et de l'autre. Ils ont eu beaucoup de difficultés et ont été obligés de fermer l'hôpital. Et nous ont demandé si on pouvait le rouvrir. Une aide de notre part pour le rouvrir. Nous l'avons rouvert, mais sous forme de maternité, c'était l'élément le plus manquant dans la région. Cet hôpital fonctionne aujourd'hui d'une façon remarquable, tant au niveau de la qualité des soins que de l'ouverture. Et l'ouverture est une ouverture qui est totale. Nous avons comme nombre de naissances dépassé depuis l'origine le nombre de 50 000 depuis la fin du mois de décembre. 50 000 naissances.
Nouveau-nés, oui.
Le personnel de l'hôpital est un personnel qui est aux deux tiers chrétiens et un tiers musulman. Et nous travaillons ensemble sans aucun problème, aucune difficulté, et une pleine compréhension. Sur le plan pratique, l'hôpital a également eu des problèmes au moment d'une des guerres entre Israël et la Palestine, au moment de la guerre, ce qu'on appelait la guerre de Bethléem, où l'église de l'Annonciation, malheureusement, a été occupée. Nous avons eu des destructions. Nous avons connu donc les difficultés aussi bien du côté israélien que du côté local pour arriver à remettre toutes les choses en place. Mais nous sommes toujours arrivés à le faire dans la plus grande, justement, entente, sans aucun problème de personne et de religion. Cette maternité de Bethléem sert de modèle pour l'autorité palestinienne dans les territoires desquels nous sommes, puisque nous sommes à Bethléem et donc en territoire palestinien, Et c'est là que viennent également se former des élèves qui sont en principe à l'université de Bethléem et qui ont comme terrain de pratique la maternité de Bethléem. Là aussi, nous avons un conseil qui est un conseil international, puisque le président en est un Allemand, notre grand hospitalier. Le président exécutif est un Français. C'est actuellement le président de l'association française de l'Ordre de Malte qui a pris ma suite. Je l'ai été pendant un certain nombre d'années. Et nous avons également des Américains qui travaillent beaucoup et nous aident beaucoup. Et un Belge, par exemple, est directeur général exécutif. Donc c'est tout à fait international.
C'est une société tout à fait, oui, multinationale. Vous parliez tout à l'heure de l'Irak, l'Ordre de Malte en Irak. Quelles sont ses activités?
L'Ordre de Malte en Irak, c'est un peu une histoire, celle-là, parce que nous sommes entrés en Irak, en fait, par effraction. Parce qu'au moment où la guerre a éclaté, nous n'avions pas à ce moment-là de point précis, nous étions en contact avec l'Irak, mais pas du tout sur le plan exécutif, sur le plan de l'action. Et nous avons pu, par l'intermédiaire de l'ambassade du Liban, justement, entrer au travers de la Jordanie en Irak, avec en particulier un véhicule qui était une ambulance mobile, si on peut dire. Un dispensaire mobile remarquablement bien équipé, qui nous avait beaucoup servi pendant la guerre du Liban, et que nous avons pensé utile de pouvoir utiliser vers l'Irak, en écoutant les appels au secours qui nous étaient lancés par les chrétiens, en particulier dans la région de Bagdad. Nous avons donc, avec une équipe française, pu franchir donc la frontière avec l'Irak et nous installer à deux endroits différents autour de Bagdad. Où, dans le premier, nous avons utilisé notre dispensaire mobile pour servir la population. Population qui, au début, était uniquement chrétienne. Mais, au fil des jours, des musulmans venaient, tournaient autour, regardaient. Et au bout de pratiquement trois semaines, il y en a quelques-uns qui ont osé entrer et venir se faire soigner dans le dispensaire. Et le résultat était que, à la fin de la première année, pratiquement, nous étions à peu près à égalité entre musulmans et chrétiens comme soins dans ce dispensaire-là. Dans le deuxième que nous avons ouvert au sud de Bagdad, pas exactement sur le même principe, mais dès le départ, l'ouverture s'est faite entre les deux et en particulier grâce à des médecins musulmans qui sont venus avec nous et qui ont pu nous aider à pouvoir à la fois faire la jonction entre les deux. On ne parle pas de religion, mais on soigne. Et c'est les hommes qui sont, ce n'est pas du tout une question de pensée, c'est vraiment, mais ils savent que nous sommes chrétiens. Sur le dispensaire, la croix, notre croix est affichée, elle n'est pas du tout cachée, et nous pouvons arriver à travailler. Le dispensaire, le premier qui a été ouvert avec notre dispensaire mobile, a dû quitter la banlieue de Bagdad où il était, car cette banlieue a été totalement occupée. Et tous ceux qui étaient chrétiens en ont été chassés. C'est là où il y avait en particulier l'université de Babylone, qui a été fermée et qui a été occupée. Et nous avons donc dû nous replier sur Bagdad même. Et maintenant, ce dispensaire-là fonctionne à l'intérieur de Bagdad, avec les dominicaines de Tours, qui en sont responsables, mais fonctionne encore malgré tous les problèmes locaux que nous avons en ce moment.
Alors cette expérience de terrain montre bien l'imbrication extrêmement complexe qui existe aujourd'hui en matière internationale dans toutes les interventions d'urgence ou dans les conflits. Parce que se mélangent les politiques, les diplomates, les militaires, on n'en a pas encore parlé, et les organismes humanitaires comme l'Ordre de Malte. Et c'est à ce sujet qu'était consacré le grand colloque qui a été organisé à l'UNESCO la semaine dernière sur l'Ordre de Malte et la diplomatie humanitaire, pour voir comment faire progresser et comment mieux organiser les coopérations entre les différents acteurs de la scène internationale. Et je dirais que l'Ordre de Malte était particulièrement bien placé pour ça, parce qu'il appartient à la fois à l'ordre humanitaire, mais aussi à l'ordre souverain. Et donc, il a un aspect, et puis même un peu militaire. Par exemple, les relations avec la Marine nationale française, qui fait sur le terrain beaucoup d'actions de sauvetage, de reconstruction, sont très importantes.
Effectivement, les relations entre l'ordre de Malte et la marine française sont très anciennes, puisque pendant tout un temps, au XVIIe et XVIIIe siècle, l'ordre de Malte constituait une école navale pour la France. Donc ces liens ont été établis à cette époque-là et continuent à exister et sont toujours très, très vivaces. D'où l'organisation de ce colloque en partenariat étroit avec le chef d'état-major et son cabinet, chef d'état-major de la marine et son cabinet. L'objet essentiel de ce colloque, son intérêt principal, c'était de faire se rencontrer, de faire discuter, travailler ensemble des diplomates, des militaires, des humanitaires. Et on se rend compte que dans le contexte actuel, c'est un environnement qui est de plus en plus complexe, dans lequel il y a de plus en plus d'intervenants qui se pressent et qu'il faut faire travailler ensemble pour éviter d'avoir une déperdition d'énergie et, ce qui serait pire que tout, un conflit d'humanitaire, si je puis dire, qui viendrait rajouter aux difficultés qui peuvent exister, soit dans un cadre de conflit, soit dans un cadre de situation de catastrophe naturelle.
Un ambassadeur de France qui était d'ailleurs là, Pierre Morel, qui s'est exprimé, a rappelé que peut-être que la première règle était quand un humanitaire intervient dans un pays, était de respecter la première règle du serment d'Hippocrate, primo non nocere, premièrement ne pas nuire, parce que si l'intervention fait du mal, c'est vraiment contre-productif. Il y a eu d'ailleurs aussi, alors il y a eu des distinctions extrêmement intéressantes qui permettent de mieux comprendre. Par exemple, on distingue traditionnellement les catastrophes naturelles, le tremblement de terre d'Haïti ou le tsunami de telle région asiatique, et puis les conflits armés qui dévastent des régions. Mais plusieurs intervenants ont fait comprendre que les deux pouvaient être liés, c'est-à-dire que quand l'État est faible ou quand il y a des rébellions, ça appartient, les drames appartiennent aux deux catégories.
Exactement. Je citerai deux exemples qui vont dans ce sens-là et qui montrent la complexité des situations sur le terrain et des situations politiques et diplomatiques qui peuvent en résulter. C'est tout d'abord, au début des années 70, les formidables inondations qui ont eu lieu dans ce qui était le Pakistan oriental. Avec la création, à cette époque-là, dans une situation particulièrement tendue de crise, de ce qui est maintenant le Bangladesh. Beaucoup plus proche de nous avec le tsunami et les conséquences du tsunami, il y a eu les conséquences politiques de la région d'Aceh, oui, qui est en Indonésie, avec des tentations sécessionnistes très importantes et l'arrivée des secours, les disproportions qui pouvaient être constatées ou craintes dans les attributions de secours ont pu revivifier certaines de ces tentations sécessionnistes. Le but des humanitaires était justement de ne pas ajouter de crise politique aux crises naturelles qui pouvaient exister sur place. Mais c'est vrai que dans ces deux cas, par exemple, et on pourrait en prendre d'autres, les implications sont très étroites.
Et à chaque fois, il faut une coordination sans faille extrêmement complexe entre l'ensemble des intervenants. C'est aussi un des orateurs de ce colloque qui citait une phrase de Zbigniew Brzezinski, qui est géopoliticien et qui fut un des conseillers du président Carter aux États-Unis, qui disait « Une société internationale de 200 acteurs, c'est ce que d'ailleurs nous avons à l'heure actuelle dans le monde, est ingérable. » Donc, nous sommes dans une société internationale ingérable, d'où tous les discours et les tentatives de créer des sortes de gouvernements mondiaux, de coordination. Alors, dans le domaine humanitaire, est-ce que ça se fait autant qu'on essaye de le faire maintenant dans le domaine financier, par exemple?
Oui, cela existe, mais avec ces deux tendances qui vont un petit peu à l'inverse l'une de l'autre. Effectivement, il y a de plus en plus d'acteurs qui interviennent, ce qui rend l'environnement de plus en plus difficile à gérer, que ce soit des acteurs politiques avec une multiplication du nombre d'États, que ce soit des augmentations dans le nombre des ONG qui interviennent de plus en plus rapidement sur les territoires en crise. Mais en même temps, l'autre tendance que nous constatons, c'est une aspiration à une coordination plus générale pour arriver à en sortir et à rester dans l'efficacité. Mais en même temps, notamment à l'occasion de ce dernier colloque de la semaine dernière, force était de constater que chacun fait référence à cette coordination tout en disant qu'il a vocation à coordonner, mais pas vraiment à être coordonné, ce qui montre à l'évidence les difficultés de l'exercice.
Mais est-ce que l'Ordre de Malte, par exemple, est consulté par des grands organismes, par l'Europe, on n'a pas parlé de l'Europe, de la communauté européenne, pour certaines situations?
Oui, l'Ordre de Malte est assez proche et de l'Europe. Nous avons des relations assez étroites avec un ambassadeur qui est accrédité auprès de la Commission européenne, qui elle-même accrédite un représentant auprès de l'Ordre souverain. Ce qui nous permet de pouvoir intervenir, notamment par l'intermédiaire de notre structure d'urgence et de réhabilitation, à la fois en amont dans les préventions, mais également sur le terrain. Je crois que à l'heure actuelle, on ne peut pas séparer ces deux étapes qui sont celles de prévention, celles d'intermédiation, celles des approches politiques. Et là, l'ordre souverain a tout son intérêt pour intervenir dans une neutralité efficace et en même temps l'action sur le terrain pour apporter les soutiens là où il peut y en avoir besoin.
Alors cette action sur le terrain d'ailleurs demande, comme vous venez de le dire, à la fois des compétences pratiques, qu'elles soient médicales, de reconstruction, très importantes, et en même temps un talent très particulier de diplomate pour garder la neutralité. Parce que, est-ce que vous formez les intervenants à ça? Parce que c'est quelque chose d'extrêmement difficile. L'émotion qui est vécue sur le terrain fait que les gens peuvent très facilement avoir des partis pris.
C'est un risque naturel et évident d'avoir des réactions qui sont dominées par l'émotion. L'émotion est humaine, l'émotion est naturelle. Simplement, surtout dans un environnement où la rapidité des médias est omniprésente, il ne faut pas non plus que l'émotion dépasse toute situation de réflexion pour aller vers une réelle solution durable. Il faut donc dépasser tous ces éléments d'opposition qui pourraient exister avec des tentations d'aller vers des approches qui seraient un tant soit peu caricaturales. Et pour cela, ça nécessite une formation, ça nécessite un recul certain, c'est évident.
D'ailleurs, vous parlez,
mais
oui,
il y a
monsieur
un
de
point, je crois, important qu'il faut signaler aussi, c'est que un de nos soucis majeurs est de pouvoir après continuer dans toute la partie reconstruction. Oui. Et ça, je crois que ça compte énormément. On peut peut-être parler pour le Sri Lanka, par exemple, de la construction des bateaux, si vous voulez peut-être en parler. Je pense que c'est important. C'est un des points que nous avons fait dans au Sri Lanka, aussi, oui, après le tsunami, c'est de voir de quelle façon on pouvait le mieux aider la population à pouvoir reprendre vie et recommencer à se trouver dans un état normal. Et là, les études que nous avons faites très rapidement ont montré que ce qui était essentiel, c'était de pouvoir reconstituer la flotte de pêche qui avait été complètement détruite. Or, toutes ces personnes-là habitaient et vivent principalement de l'industrie de la pêche. Donc ça peut permettre de les remettre en selle. Et nous avons, après les tremblements de terre, par exemple en Amérique latine, eu des programmes de reconstruction de maisons. Des maisons rapidement construites, mais qui permettaient au moins d'avoir un abri pendant un certain temps et même quelques années. Donc le côté reconstruction, réhabilitation est un de ceux qui, pour nous, compte également énormément.
Oui.
Et pour compléter cela, il y a un autre aspect auquel nous sommes très attachés et pour lequel notre souveraineté, notre approche de neutralité joue particulièrement. C'est qu'au-delà de la situation de crise, au-delà de la reconstruction qui est nécessaire, on doit aboutir à une réconciliation. Nous devons être des acteurs de réconciliation et c'est à partir du moment où on commence à aborder ces éléments qui dépassent le matériel, qui vont vers l'immatériel, que notre mission sera réellement remplie.
Oui, c'est-à-dire vous allez jusqu'au bout du cycle. On distingue traditionnellement plusieurs phases dans l'action d'urgence. Il y a d'abord la prévention, c'est peut-être aussi très difficile. Puis il y a la gestion immédiate des crises, la reconstruction. Et puis le point ultime, c'est la réconciliation qui est garante de l'avenir. Effectivement, c'est un. On a vu d'ailleurs, alors dans d'autres formes. Moi, j'avais toujours été très frappée en Afrique du Sud, les grandes commissions justement de réconciliation qui ont joué pendant plusieurs années un rôle considérable et qui étaient très très importantes pour que le pays n'éclate pas.
Et la réconciliation se passe d'ailleurs bien souvent dans nos centres. Parce que les partis différents se retrouvent pour venir se faire soigner. Donc ils sont là, ils se parlent, ils se voient. Donc c'est encore un élément qui peut jouer, même au niveau le plus bas. Pas seulement sur un plan de haute politique, mais également sur un plan
très
de
local,
la population locale elle-même, exactement.
Vous aviez parlé tout à l'heure, Thierry de Beaumont-Beynac, de la presse, et on sait qu'elle joue un rôle en politique nationale ou internationale de plus en plus présent et immédiat, avec une pression qui pèse sur les acteurs. Or, l'Ordre de Malte est toujours resté très discret et je me demandais si c'était pas les leçons de son histoire, parce que 900 siècles d'histoire, ça peut apprendre à être discret pour être efficace.
Effectivement, nous avons toujours mis en exergue cette phrase qui dit que le bien ne fait pas de bruit et le bruit ne fait pas de bien. Alors je ne veux pas tomber dans la caricature, mais l'ordre a toujours privilégié l'efficacité et la discrétion. Je citerai d'ailleurs comme exemple ce que me disait il n'y a pas très longtemps un président de République africaine où je me rendais, qui me disait « j'apprécie particulièrement l'action de l'ordre de Malte parce que vous êtes au contact des réels besoins, vous êtes efficace et vous ne venez pas comme d'autres nous donner des leçons et repartir sans avoir rien fait. Vous au moins, vous êtes efficace et vous êtes discret. »
Oui, et vous ne cherchez pas aussi à tirer les bénéfices ou la gloire des actions menées. C'est effectivement. Je vais peut-être dire aux auditeurs qu'ils peuvent en savoir plus en consultant le site internet qui est très bien fait. Il y a une partie historique et puis alors un développement sur l'ensemble des activités. Le site internet, c'est ordredemaltefrance.org. Puis de toute façon, dans un moteur de recherche, on tombe tout de suite sur vous. Il y a un rapport d'activité qui a été fait, qui est extrêmement complet. Rapport d'activité 2010 avec d'ailleurs illustré de photos. Alors on apprend aussi beaucoup de choses sur la structure de l'Ordre de Malte. On en a un petit peu parlé au début, mais c'est vraiment très complexe. Il y a des chevaliers. Alors les chevaliers, à un moment donné, je me suis demandé si c'était héréditaire. Non, c'était pas.
Ah non, absolument pas. Il faut faire acte volontaire pour solliciter son entrée dans l'ordre. Cela relève d'une démarche personnel. Et par ailleurs, un point qui est important de souligner, c'est que c'est un ordre international qui, dès le départ, a été conçu de façon très démocratique, puisque chacune des fonctions dans le gouvernement de l'ordre, à commencer par l'élection à la grande maîtrise, chacune de ces fonctions est faite par élection. Et à part le grand maître qui est élu à vie, toutes les autres fonctions sont pour des durées déterminées. Et cela fonctionne avec les différentes nations, les différents pays qui travaillent, qui collaborent ensemble, alors que il y aurait peut-être beaucoup d'autres aspects qui amèneraient des oppositions entre les pays ou qui a pu amener des oppositions entre les pays dans les siècles passés. Au sein de l'ordre, tout le monde a travaillé ensemble et de façon démocratique.
Et il y a un gouvernement de l'ordre de Malte dont avec d'ailleurs le grand chancelier qui est français.
Nous avons deux Français qui sont représentés parmi les 10 membres du souverain conseil, à commencer par le grand chancelier de l'ordre qui est un Français, Jean-Pierre Mazerie, qui est à la fois le chef de la diplomatie de l'ordre, le ministre des Affaires étrangères, et également le ministre de l'Intérieur et celui qui joue le rôle de chef de gouvernement de l'ordre.
C'est une histoire passionnante et une action tout à fait intéressante. Je remercie mes invités, Thierry de Beaumont-Ménac et Jacques de Dumas. Merci d'être venu nous parler aux auditeurs de Fréquence Protestante de cet ordre, pas encore millénaire, mais bientôt.